Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici repartis pour une autre émission débat Patara sur Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, consacrée au retrait précipité des forces armées centrafricaines de Boko Haram sur instruction d'un groupe rebelle. En effet, les forces armées centrafricaines déployées à Boko Haram dans l'Opinté mardi 4 novembre ont été contraintes quelques heures après leur arrivée par le chef de file de 3 heures, Sidiki, de quitter la localité. Une décision dénoncée par le député de Boko Haram 3, Martin Zigele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Coup dur pour la population de Boko Haram. La liesse populaire exprimée à l'arrivée des forces de défense dans la ville s'est aussitôt transformée en une psychose généralisée. Selon Martin Zigele, député de Boko Haram 3, Sidiki a exigé que si les FAKA doivent venir à Boko Haram, il faut qu'il donne son autorisation. Si l'État centrafricain doit demander à Sidiki une autorisation pour déployer les FAKA, est-ce qu'il est une autorité légitime? C'est inacceptable. Fin de citation. Du coup, les éléments des forces armées centrafricaines déployées à Boko Haram n'ont pas pu remplir leur mission, celle d'assurer la défense des personnes et des biens ainsi que la facilitation du déploiement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Depuis le mois de novembre 2018, les rebelles de 3 heures ont investi plusieurs localités autour de Boko Haram, y compris Ngaoundaï. Les modèles, les mobiles de ces agissements ne sont pas clarifiés. En décembre 2017, le chef de guerre Sidiki et ses éléments de 3 heures avaient été chassés de Boko Haram par la force de la MINUSCA. À Bangui, deux jours après le retrait des FAKA de Boko Haram, le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaghi a annoncé à la presse leur redéploiement prochain. Pour le gouvernement, il s'agit d'une incompréhension avec les éléments de 3 heures qui sera bientôt dissipée. Une réunion du comité consultatif de suivi du DDRR est d'ailleurs prévue dans ce sens. Question: qui du gouvernement et des groupes armés doit décider du déploiement des FAKA? Est-ce un acte de défiance de la part de ces groupes rebelles? Comment comprendre le fait que depuis le mois de novembre 2018, les rebelles de 3 heures ont investi plusieurs localités autour de Boko Haram, puis alors du projet DDRR en cours? Pour en parler, nous invitons aujourd'hui autour de la table M. Aristide Briand-Roboise, président du Parti chrétien démocrate en abrégé PCD. Il est ancien directeur général des renseignements, expert en matière de droits de l'homme auprès de la force régionale d'intervention de l'Union africaine pour la lutte contre la LRA, écrivain observateur de la vie politique en Centrafrique. M. Briand-Roboise, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour chers amis et auditeurs.
M. Bernard Dila, député de Ngaoundaï 1, premier secrétaire parlementaire. Monsieur Bernard Dila, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tous nos auditeurs.
Monsieur Teiro Kachabaz, deuxième secrétaire général adjoint du parti Rassemblement pour la République et en même temps porte-parole de ce parti, le parti RPR. Monsieur Teiro Kachabaz, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Ndekeluka.
Et Maître Fernand Silvio Mandejapou, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale, un leader de la société civile. Maître Fernand Silvio Mandejapou, bonjour.
Bonjour Hippolyte.
Herman Ambona à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, honorable Bernard Dila, député de Ngaoundaï, cette localité voisine à Boko Haram, où nous signalons cette présence des éléments de 3 heures depuis un certain temps. Boko Haram n'est pas la seule ville concernée par cette invasion. Il se trouve que votre localité aussi est également concernée. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette région?
Merci Hippolyte. Je crois que vous l'avez si bien dit, Ngaoundaï voisine à Boko Haram. Nous sommes à presque 80 km et donc nous partageons pratiquement les mêmes problèmes dans la zone. L'événement Sidiki en ce moment n'est pas seulement à Boko Haram. Je crois que ma circonscription Ngaoundaï depuis 2 semaines a été totalement envahie et j'ai fait même des déclarations. La gendarmerie de Ngaoundaï est occupée et transformée en une base des éléments de Sidiki en ce moment-là. Donc nous sommes en train de suivre avec beaucoup de préoccupations cet événement qui est en train de se développer. Alors que nous avons rencontré il y a quelques mois Sidiki dans notre déplacement, nous les députés de l'Ompindé, nous avons rencontré Sidiki qui nous a donné toute sa disponibilité à respecter les engagements pris face à l'État centrafricain, qu'il était prêt à accepter la présence des forces dans la zone et que si les forces armées viennent ici, que lui n'aurait plus à continuer à garder les armes parce qu'il garde à travers lui des armes parce que n'y a pas les forces de sécurité, il n'y a pas des forces de défense. C'est pourquoi ils gardent ces armes pour se protéger, pour protéger les peuls qui sont là. Et curieusement, aujourd'hui, c'est la personne qui s'oppose farouchement à la présence des FAKA et des forces de l'ordre.
Et on a même appris qu'il s'est même renforcé en troupes.
Naturellement, je crois que le passage, comme d'habitude, et on l'a toujours décrié, le passage, c'est Ngaoundaï. La région de Ngaoundaï est la région par laquelle Sidiki importe toujours ses cargaisons d'armes. Les armes transitent toujours par Ban, transitent par Ngaoundaï et il y a moins d'une semaine de cela, des pick-up qui sont venus du Tchad sont passés par la brousse, ils ont transité par Ngaoundaï pour remonter jusqu'à Kouy chez Sidiki. Donc, je crois qu'il faut essayer de prendre cette menace-là au sérieux parce que les gens se renforcent, parce que les gens continuent à s'armer. Et nous avons encore, et ça il faut le dire, nous avons des informations selon lesquelles il y a encore d'autres véhicules qui sont en route pour venir transiter toujours par Ngaoundaï, y compris, selon ces informations-là, des chars blindés. Alors, donc, je ne sais pas, nous avons toujours dit ça, nous avons prédit, les gens ne prennent pas au sérieux et finalement, ça se réalise toujours. Donc, je crois qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter.
Il y a de quoi s'inquiéter, une menace réelle qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Aujourd'hui, on voit déjà une première conséquence, c'est des FAKA qui sont contraintes de rebrousser chemin alors qu'ils venaient d'être déployés à Bokaranga. Monsieur Aristide Brion-Rebois, que vous inspire une telle situation?
La même chose, comme je dis... Souvent que ce n'est pas une nouvelle crise, c'est la continuité d'une crise que je dirais mal résolue ou alors mal comprise qui continue d'être multipliée. Aujourd'hui, la situation de Ngaoundaï m'interpelle et ça me permet de réaliser combien de fois je vois les choses avec plus de justesse et que je ne me suis jamais trompé dans mes analyses. Je pense que le député de Ngaoundaï a bien expliquer les choses. Mais ce qui est sûr, qu'il y a des objectifs cachés qui se profilent derrière cette réalité. Et cela ne vient pas de la RCA. Vous savez que la crise centrafricaine a pour de 80% d'origine exogène et que s'il faut aller un peu plus loin, on remonte il y a de cela 7 ans, non, même plus que ça, 10 ans. Qui est Sidiki? Sidiki est celui qui avait répondu à l'appel de Babalade de la mise en place de cette mouvance, parce qu'il y a une mouvance qui existe, où Babalade se dit d'être autorité morale.
Babalade protecteur, qui vient d'être condamné voilà, par la justice tchadienne.
Voilà, protecteur de tous les peuples, depuis le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la République centrafricaine. Et donc, dans mes recherches à l'époque, j'avais travaillé, comme je vous dis, avec le sultanat de Oro Djafoun à l'époque, pour essayer de bien comprendre cette situation. Quand Babalade, à l'époque où moi aussi j'étais aux affaires, avait demandé d'être reçu effectivement à Bangui, comme un chef d'État à l'époque, c'était pour donner cette vision, ce temps, c'est-à-dire cette visibilité aux autres peuples pour dire que voilà, effectivement, je suis reconnu. Je suis reconnu en tant que votre autorité, voyez-vous, bien que j'ai été reçu à l'aéroport de Bangui par le président de la République, par les autorités officielles, et cela lui a donné naturellement encore plus des ailes. Ouais. Ce qui se passe exactement, c'est quoi? La RCA aujourd'hui est un terrain de règlement de comptes et que c'est un réservoir là où on peut puiser tout ce qu'on peut puiser en matière de stratégie, de ressources humaines, de ressources stratégiques pour pouvoir régler les comptes de nos ennemis ailleurs. Aujourd'hui, je ne vois pas de coïncidence avec l'arrestation de Babalade. En fait, cette réaction, naturellement, est due aussi en partie à l'arrestation de Babalade. Si vous voyez bien, les Alidaras, les Babalade sont des cousins, ils sont tous des Ouda du Niger. Donc, en fait, pour eux, la famille a été attaquée.
Et la grande communauté Peul.
La grande communauté Peul. Ajouté à cela, il y a aussi la volonté des amis. Quand vous voyez des véhicules venir du Tchad, ce n'est pas forcément envoyé par le président tchadien. Ça, il faudrait qu'on émette un peu de réserve. Parce qu'aujourd'hui, après moult échecs des groupes rebelles contre le pouvoir du N'Djamena en passant par le Nord, aujourd'hui, il est clairement décidé, il faudrait qu'on mette en place une stratégie de l'attaquer par le Sud. Et là, je vous dis, l'honorable a bien parlé, il a une bonne analyse, il a connaissance du terrain, mais je vous dis que la prochaine étape, ça va être Betoko. L'objectif, c'est de gourer et puis pour attaquer dans ce sens. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour lui, Babalade, exactement, pour avoir une base arrière dans cette localité, il faut trouver un chef. Et donc Babalade est dans une démonstration pour dire que c'est moi le chef. Donnez-moi l'argent, donnez-moi des armes, donnez-moi les moyens qu'il faut.
Vous voulez parler de Sidiki plutôt?
Non, Sidiki. Sidiki, excusez-moi.
Justement.
Excusez-moi. Donc, il est en train de démontrer que c'est lui qui contrôle le terrain et que l'État est absent et qu'il est en train de tout faire pour donner un message que voilà, je suis prêt pour vous aider. Voyez-vous, je contrôle même la gendarmerie de Ngaoundaï, je contrôle les passages d'approvisionnement, je contrôle tout et vous pouvez compter sur moi pour atteindre votre objectif. Sans pas sans conséquence, parce que dans les jours à venir, tu verras que le régime officiel du Tchad cherchera aussi à réagir. Et entre-temps, la RCA sera encore de nouveau un terrain d'affrontement. Et que, naturellement, c'est déplorable.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Hein.
Non, ce n'est que le début de commencement. Ça, c'est encore une nouvelle crise en gestation avec des conséquences multidimensionnelles.
Une nouvelle qui donne froid.
J'aimerais effectivement réagir par rapport à ce que Aristide vient de dire. Je crois que c'est plus sérieux, cette situation. Il y a quelques mois, dans la zone de Ngaoundaï, nous avons, et ça nous l'avons signalé même aux autorités, il y avait la présence des personnes qui étaient venues s'installer dans la zone de Ngaoundaï et qui disaient que nous ne sommes pas venus ici pour la République centrafricaine, mais que nous sommes là pour nous préparer, parce que nous, notre problème, c'est au Tchad.
C'est des combattants en
Ce sont des chefs, quand tu les vois, mais ils étaient là, ils étaient même interpellés par la gendarmerie de Ngaoundaï à cette époque-là. Et moi-même, personnellement, j'ai intervenu auprès des autorités pour dire que la présence des personnes de ce genre à la gendarmerie risque de nous créer des problèmes. Il faut aller les chercher, les ramener sur Bangui. Je ne sais pas comment les choses se sont passées et ces gens se sont évaporés dans la brousse et sont repartis. Et donc, effectivement, il faut prendre ces menaces-là au sérieux pour ne pas que demain, ce soit la population centrafricaine qui paye les pots cassés pour des guerres qui ne nous concernent pas.
Merci, honorable Bernard Thiela. Je le disais, aujourd'hui, on commence à voir les conséquences de ce regroupement de personnes étrangères ou encore des nationaux dans le groupe. On n'en sait rien. Mais voilà, aujourd'hui, les premières conséquences se dessinent. Des FACA qui sont contraints de repousser chemin, déclarés persona non grata par des rebelles. Aujourd'hui, voilà. Vous, comment vous réagissez à cela au niveau de l'opposition démocratique, monsieur Teiro Kachabaz?
Oui, merci déjà pour l'interrogation. C'est très important vis-à-vis de la situation actuelle du pays. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même d'accord sur une chose, qu'il n'y a pas de doctrine politique, pas de doctrine militaire sans vision politique. C'est de la vision politique que découle la doctrine militaire. Or, aujourd'hui, si on voit bien la vision qu'aujourd'hui propose le chef de l'État, le gouvernement centrafricain, c'est une vision où le chef de l'État dit clairement qu'il ne veut pas faire la guerre. Il dit bien, la guerre ne l'intéresse pas, il ne veut pas faire la guerre. Même si nous sommes attaqués, même si les populations sont sauvagement attaquées, le chef d'État a clairement dit qu'il ne veut pas faire la guerre.
Donc, pour réagir par le dialogue.
Voilà, par le dialogue avec des étrangers qui n'ont aucun intérêt à ce que justement la paix revienne sur la RCA et qui viennent simplement pour le pillage et le contrôle des ressources humaines. Donc il y a déjà ce préalable. Ce qui se passe également, on le comprend, comme j'ai dit, à cause de la défaillance au niveau de la vision politique, mais militairement, nous sommes en échec. Par ma petite expérience de militaire, quand on analyse justement le déploiement des forces, des groupes armés, le déploiement d'autorité de l'État, vous voyez qu'il y a une dichotomie. D'un côté, regardez comment se déplacent les rebelles de l'UPC, du 3R, l'unité tactique de base. C'est le bataillon. L'unité tactique de base, c'est le bataillon. 500 hommes. Quand l'État veut déployer ses hommes, unité tactique de base,
c'est une section.
C'est une section. 50 hommes. Donc, un FACA pour 10 soldats. Vous voyez ce qu'on appelle, dans le jargon militaire, le tableau d'effectifs et de dotation. D'un côté, vous avez des PKM, des RPG, des BM-41, des PM-41, des Dragunov. Bref, en tout cas, un matériel avec des mortiers légers, etc., assez conséquent. De l'autre côté, vous avez
les Kalachnikov. En face.
D'un côté, vous avez les centres tactiques de ces gens qui sont constitués d'ordinateurs, de serveurs, de communication, enfin tout cela. De notre côté, absolument rien. Vous voyez même le positionnement.
On a quand même les talkie-walkie.
Oui, par la grâce de Dieu. Vous voyez même le positionnement de nos troupes. Quand nos troupes arrivent à Bokaranga, elles sont à centre Bokaranga. Avant que Sidiki n'arrive à Bokaranga, il place ses hommes axe Mbaïkoum.
Bon.
Axe Bois. Donc ça veut dire qu'il a déjà mis en place une couverture. Il coupe les lignes de transmission, de ravitaillement de nos FACA. Donc vous voyez que stratégiquement, au niveau tactique, au niveau opératif, au niveau stratégique, nous sommes battus. Nous sommes en sous-effectif, moins bien équipés, moins bien formés et bien sûr avec une défaillance au niveau stratégique. Donc ça veut dire que cette défaillance militaire aujourd'hui que nous voyons au niveau de nos FACA est la conséquence logique d'une vision politique qui n'existe pas. Et donc partout où on déploiera des FACA, en maintenant cette vision-là, nous serons dans l'échec. Donc c'est systématique. Qu'il y ait ou non des programmes étrangers contre nous ou bien nationaux, ça sera toujours la même situation, à savoir que, et vous le voyez bien, les FACA sont arrivés à Bocaranga, ils créent une situation de peur, ils se retirent, abandonnent la population, et grâce à Dieu, là, c'est passé comme à Lindao, grâce à Dieu, la population n'a pas été victime d'exaction.
Et vous pensez qu'au stade actuel, avec ce niveau de remise en forme des FACA, et ce niveau d'outils de réarmement que nous avons, vous pensez que l'état-major est en mesure de redéployer les FACA dans les conditions souhaitées?
Comme je dis, toutes les questions de volonté politique. D'un côté, est-ce que vous voyez l'UPC, le FPRC ou bien les 3R demander à l'EITM de les former ou demander aux Russes de les former? Comment expliquer que des hommes qui sont des aguerris, 15 ans, 20 ans de pratique de FACA, maintenant on nous dit que non, il faut aller les former. Former à quoi? Ce sont des guerriers, c'est leur métier de faire la guerre. Comment on peut encore aujourd'hui accepter l'idée selon laquelle il faut former nos FACA? Mais c'est une aberration totale. Aujourd'hui, nous avons besoin de savoir quoi? De savoir que sur le théâtre des opérations, nos FACA sont opérationnels. Mais si on ne les envoie pas, ou si on les envoie en sous-effectif, sous-équipé, comment est-ce qu'on peut juger de la qualité de nos FACA? Donc ça veut dire, c'est comme s'il y a un sabotage au niveau aux hautes autorités politiques.
Je ne pense pas que si je dois être d'accord avec vous sur ce point précis, parce que même les armées les plus puissantes au monde font des recyclages permanents des éléments.
Comment on parle de recyclage? Je ne refuse pas. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est qu'on parle de formation. On ne parle pas de recyclage. Si c'était que le recyclage. Mais aujourd'hui, allez dans le fond de ce recyclage. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ce sont des fondamentaux que tout le monde apprend dans les classes. Les classes, c'est 2 mois. 2 mois pour apprendre le minimum de base pour un soldat. Ça, c'est des choses que nos soldats savent déjà. Si on me dit que c'est un soldat qui veut devenir sous-officier, je comprends. Un sous-officier qui veut devenir officier, je comprends. Mais des gens qui sont aguerris, aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Que à ce que les FACA aient une chaîne de commandement qui soit opérationnelle. Avec quoi? Une centralisation des décisions et une décentralisation au niveau de l'exécution. C'est ce que nous voyons chez les rebelles et qui n'existe pas chez nos forces loyalistes.
Merci à vous, M. Teruga Chabaz, Maître Fernand Sylvain Manetjapo. Aujourd'hui, il est clair, l'autorité de l'État est défiée par un chef rebelle. C'est ce qui s'est passé à Bocaranga. On doit dire que cela est justifié, ce qu'on vient de connaître à Bocaranga, puisqu'on est dans un contexte centrafricain, justement.
Merci beaucoup. C'est une question difficile, mais est-ce que l'autorité de l'État existe dans ces zones? Parce que c'est important, il faut qu'on soit clair. L'autorité de l'État est à Bangui. Qu'on soit clair, moi je ne contourne pas. Mais à Bukaranga, est-ce qu'il y a l'autorité de l'État? Allez à Kakabandoro, est-ce qu'il y a l'autorité de l'État? Le préfet dort dans un motel. Il n'y a même pas son aide quand il n'y a rien. Quelle autorité de l'État que vous parlez? Les rebelles ont développé une stratégie depuis des années pour contrôler les zones. Ils se sont imposés. Mais l'équipe de DR est allée rencontrer Sidiki plusieurs fois. Avec Issabi, qui est le représentant de PLUC. Ils sont allés les rencontrer, échanger avec eux. Mais voyons leurs armes. Ce ne sont pas des n'importe quelles armes. Ils sont bien équipés avec des tenues militaires. Ce n'est pas des n'importe quelles tenues militaires. Des armes reviennent dans les villes, dans les Nilans. Les gens sont lourdement armés. Parce que ça concerne quoi? Vous savez, ce sont des hommes de business. Que ça soit Bombari, on dit, il faut dire à Dalindaraz, retire-toi un peu. La MINUSCA, cette mission qui est venue nous protéger. Va là-bas, retire-toi. Au lieu de les arrêter, il y a une complicité dans le cadre de ce qui se passe en RCA. Le président Kabila a pris sa responsabilité pour chasser les rebelles de M23. Il y avait la MINUSCO là-bas, il a dit c'est fini, je refuse. L'armée doit prendre ses responsabilités. Nous étions partis, on a vu comment ils ont pris, comment ils ont envahi, comment ils ont arrêté, comment ils ont chassé les rebelles de M23. Parce qu'il y a un chef d'État qui a décidé, qui a pris conscience. Il y a un leader qui a parlé. Et le leader, il a dit nous devons chasser ces rebelles qui font du mal au peuple. Aujourd'hui, ça nous pose problème, on négocie avec eux. On tend toujours la main, on tend la main DDR. DDR, je dis que c'est un business. Je vous dis, voyez bien les DDR depuis 2008. Des fois même, les contenus, c'est les mêmes personnes, c'est un business. Et suivez bien la vie de ces gens qui gèrent ce DDR-là. Les gens exploitent. Je vous dis, c'est du business financier.
Vous ne croyez pas au DDR.
On n'a jamais cru à ce DDR-là. C'est pour ça que même, lorsqu'on m'avait dit... On nous avait dit de remplacer dans l'équipe. Les gens refusaient parce que c'est notre position. On dit c'est un fiasco. C'est un fiasco pour quoi? Les rebelles, ils ont contrôlé les différentes zones. Tu vois? L'exploitation des ressources. Deux, il y a les ventes d'armes. Ce sont des business. Lorsque l'honorable de Ngaonda vient de parler qu'il y a certains visages qu'on n'a jamais vus, les gens sont là les interpeller. Le gouvernement n'a pas réagi malgré les efforts de la gendarmerie. Mais il n'y a rien. Tu vois? Ces gens-là, ce sont des mercenaies. Voyez bien sur les France 24 l'attaque de N'Djamena. Les rebelles, les opposants se sont préparés. Mais Bangui est comme une base d'arrière pour les éléments.
Baba l'a dit aussi, t'es venu se ressourcer ici. Lorsqu'on utilise les rebelles, les mercenaires tchadiens, eux aussi ils ont besoin de ces gens pour aller aussi combattre. Et c'est là-bas aussi qu'on les ravitaille. Ils cherchent aussi à chasser des billes. Parce que la rébellion est devenue, ou le mercenariat, c'est un grand business. C'est un réseau terrible. C'est un réseau où beaucoup de monde sont dedans. Rappelez-vous, à Bangui, au niveau du marché combattant, on a pris qui ? Un élément de Al-Daras qui était venu aussi faire quoi ? Vendre des diamants, non ? Il a été assassiné ici, il était veut, il y a un qui a fui et puis l'autre l'est exécuté. Vous n'avez pas oublié ça ? Mais ils ont eu ces diamants-là où ? C'est un monde de business. C'est ça qu'aujourd'hui, Sidiki, il s'est dit, j'ai des armes, j'ai tout, je peux faire ce que je veux. Je m'impose. Et pourquoi c'est seulement les peuples ? Analysez, Al-Daras, il n'y a pourquoi c'est seulement eux qui continue à tuer le peuple, à massacrer le peuple. Et de l'autre côté, on dit, non, vous savez, c'est l'État, on négocie, on fait ceci, on fait cela. Ça nous pose des problèmes et ça nous pousse des fois à réfléchir pour voir que la rébellion en RCA, c'est un très grand business. Et ces gens, ces rebelles, ils cherchent seulement à s'enrichir. Mais on a les forces onusiennes qui sont capables de les arrêter, qui discutent avec eux, les palais de l'Union africaine, avec nos membres du gouvernement, soit aller les rencontrer, échanger avec eux, causer avec eux, prendre des tasses de thé, du café avec eux. On les laisse, on
d'accord.
Tue le peuple.
Ok, mais nous sommes d'accord que la rébellion reste quand même ce vaste domaine de business en République centrafricaine. Pendant ce temps, les autorités pensent qu'il faut passer par le DDR comme outil de résilience de ces groupes armés afin de les réintégrer et dissiper un peu cette pratique-là. Aujourd'hui, vous vous remettez en question le DDR, quelle pourrait être l'alternative?
Mais lorsqu'il y a le DDR, c'est un principe, c'est un engagement. On l'a dit, le chef d'État même a tout le temps dit. Les gens acceptaient d'être ensemble, pour d'aller dans le processus de DDR. Ils ont accepté, c'est-à-dire que c'est un accord. Pourquoi les gens violaient cet accord ? Parce que les gens savent qu'il y a une faiblesse du côté de l'État. L'État négocie seulement, mais il n'y a pas une position de force. Et là, aujourd'hui, ils savent que nous, on est en position de force, mais l'État négocie avec nous. C'est en cela que l'histoire de DDR, mon frère, c'est un problème. Pourquoi ils ont défié l'autorité de l'État ? Eh, partez ! Partez, mais ça c'est de l'insulte, les FACA, les forces non conventionnelles viennent dire aux forces conventionnelles, partez, partez, dégagez, je peux mettre
et
les
ils sont partis. Justement.
Dégagez, on ne veut pas vous voir ici, et après on nous sort des arguments pour dire que non, ce sont, quelle réplique tactique, avant d'aller, on examine, mais c'est sur le plan militaire, si c'était pour les exterminer, si c'était pour tuer ces éléments des FACA, ils auraient déjà assassiné tous ces gens, et qu'est-ce que l'État va dire demain?
Honorable, je vois que vous voulez rebondir.
Je partage parfaitement ce que Maître Diapou vient de dire. Parce que vous savez, avant cet événement, le ministre de Sécurité était descendu sur le terrain. Il était à Bokaranga. Mm-hmm. Il a rencontré Sidiki dans Bokaranga avec tous ses hommes. Il sait comment ces hommes-là sont armés. Mm-hmm. Il le sait parfaitement. Dès qu'il était revenu à Bangui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Il y a comme un appel d'air. Les gens ont commencé maintenant à se vadrouiller. Ils sont passés à Baboua, ils sont passés là-bas, ils sont allés vers les Gamboula. On a parlé de 50 motos ou bien de 200 motos où ils étaient 4x4 dessus. C'est après le passage du ministre de Sécurité. Mm-hmm. Automatiquement après ça, Ngaoundaï était aussi envahi. Et après maintenant, Bokaranga, on sait bien comment ces hommes sont armés. Même si c'est une mission de reconnaissance ou bien une mission, je ne sais pas, précurseur, mais on doit quand même prendre toutes les mesures pour envoyer un effectif et des moyens suffisants.
Vous pensez que vous voulez dire que cette opération de déploiement a été mal réfléchie ?
Mais je crois qu'ils ont mal réfléchi. C'est-à-dire qu'ils devraient envoyer, parce qu'ils connaissent que ce n'est pas une zone verte. Ils savent que c'est une zone où il y a des groupes armés bien organisés, bien équipés. Pour envoyer des FACA là-bas, il faut les envoyer avec des moyens suffisants, capables de faire face s'il y a des problèmes. Mais moi, ce que je voulais surtout insister là-dessus, vous savez, quand les FACA étaient dans Bokaranga et que les groupes armés ont bouclé Bokaranga pour demander le départ des FACA, quels sont ceux qui ont initié les négociations ? C'est la MINUSCA. Oui, c'est la MINUSCA. La MINUSCA qui était là à Bokaranga, une base importante de la MINUSCA à Bokaranga, avec des chars censés aider l'État à rétablir l'autorité de l'État dans la zone. Ce sont ces MINUSCA-là qui sont venus négocier pour dire aux FACA aussi, mais voyez, comme c'est comme ça, vous partez. Et donc vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi, même si les FACA n'étaient pas suffisamment équipés, la MINUSCA ne pouvait pas les appuyer pour qu'ils restent et qu'ils démontrent l'autorité de l'État dans la zone? Il y a un problème. Donc ça veut dire que à quel jeu la MINUSCA est en train de jouer? Nous avons rencontré, s'il te plaît, nous avons rencontré, il y a deux jours, le sous-secrétaire de la MINUSCA, M. Kenneth.
et qui nous a dit, mais vous voyez, la mission de Boko Haram, normalement, quand il y a les FACA avec la MINUSCA, ça réussit. Mais les gens ne nous ont pas avertis, ils sont partis. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que la MINUSCA veut que nous soyons toujours dépendantes
d'elle.
Tant que nous ne serons pas accompagnés de la MINUSCA, ils vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues pour que nos missions échouent. Et je ne suis pas en mesure de dire que je ne doute pas que cette mission-là, je crois que la MINUSCA est complice de quelque chose pour monter ces groupes armés-là, pour que ces groupes armés-là s'opposent aux FACA pour les chasser. Oui. Même si je reconnais que dans l'adage africain, on dit quand tu demandes à quelqu'un de te laver le dos, il faut d'abord te laver le visage, il faut te laver la face.
Oui, mais nous avons des intérêts. Mais je crois que honorable, ce sera pour quel intérêt que la MINUSCA devienne complice, voilà.
Mais naturellement pour dire que prochainement, si on veut aller, il faut qu'il soit à côté de nous. Comme ça, ils vont nous dicter ce que nous devons faire. Et voilà, parce qu'ils ont leur agenda.
Mais en décembre 2017, hein, le chef de guerre s'est dit que ses éléments 3R avaient été chassés de Bukaranga, vous vous souvenez, par la MINUSCA, justement.
Oui, je suis d'accord parce que c'était nous, les députés. Nous étions en première ligne pour exiger, en tout cas, à la MINUSCA de mener cette opération-là. Mais malheureusement, c'est une opération. Je dis, ils les ont chassés. Peut-être ils ont négocié avec eux. Ils ont tiré des coups de feu pour les faire partir. Mais aucun homme... Ils ont déployé des tonnes et des tonnes de munitions, mais aucun élément de ces rebelles-là a été neutralisé. Mm-hmm. Aucun a été tué. Aucune arme n'a été saisie. Ça veut dire qu'ils leur ont tout simplement dit « Non, éloignez-vous » et tout ça. Et automatiquement, après les avoir chassés, le résultat c'est quoi? Mais tout simplement, les gens sont revenus tranquillement. Mm-hmm. Ça veut dire que l'opération qu'ils ont menée, ça a servi à quoi? Rien, absolument rien. Puisque le résultat, c'est ce que nous sommes en train de vivre.
Le gouvernement centrafricain annonce le retour prochain des FACA à Bukaranga. Nous allons suivre à propos un extrait du ministre Kazagi, qui est le porte-parole du gouvernement en question. Nous allons suivre Ange-Maxime Kazagi.
Il a été décidé d'un déploiement des FACA à Bukaranga. C'est donc sur cette base que le ministère de la Défense a instruit cette section de se rendre à Bukaranga pour évaluer, comme je le disais tantôt, le contexte permettant un déploiement à venir dans les meilleurs et brefs délais. C'est à ce moment qu'il est apparu, semble-t-il, une incompréhension avec des éléments de 3R, ça c'est leur point de vue, que ce déploiement se serait fait sans qu'il n'ait été avisé. Compte tenu de la tension ambiante, la MINUSCA s'est interposée et les FACA, de manière à ce que ce déploiement qui va se faire, comme je le dis, je répète, ce déploiement des FACA qui va se faire, se fasse sans incident comme cela a été convenu d'ailleurs, avec les populations et les 5 groupes armés que j'ai évoqués plus haut, pour organiser le déploiement, je dois vous le dire, hein, dans les jours qui viennent.
Alors, monsieur Aristide Brun-Rouvois, vous avez suivi le ministre porte-parole du gouvernement. Il parle d'une incompréhension d'abord qui était à l'origine, n'est-ce pas, de cet incident-là qui a contraint les FACA à rebrousser chemin et que ce redéploiement va être réorganisé dans un bref délai. Vous y croyez?
Mon avis sur cette question, je ne suis pas sûr que ça devrait plaire ni à qui que ce soit, parce que tout ce que je sais, c'est que j'ai suivi avec intérêt mes frères débatteurs, j'ai compris qu'il y a une absence d'une stratégie globale. Manque de coordination, j'ai toujours appelé de mes voeux, écrit dans mon deuxième livre, qu'il était temps d'une nécessité absolue de mettre en place un état-major commun entre la MINUSCA et les FACA. Les FACA pouvaient être un facteur décisif dans les recherches de renseignements, c'est-à-dire de mettre en place en valeur les renseignements capables d'être orientés sur des cibles, peu importe ce que le gouvernement dit, peu importe ce que, je ne sais pas, de toutes les façons sur cette question, il ne devrait même pas avoir de l'opposition. Une chose est vraie, la population de Ngaoundaï et de Bukaranga souffre, comme ceux de Batangafo, comme ceux de Bambari, comme ceux de Ipi, Alindao, etc. Il y a une crise, et cette crise-là, elle est profonde. J'ai toujours dit qu'il faudrait que la direction stratégique de l'état-major de l'armée centrafricaine, état-major conjoint de deux forces onusiennes et centrafricaines, puissent être partagée. Et comme nous savons bien que l'armée centrafricaine, que peut-être les gens sous-estiment l'armée centrafricaine, on est la meilleure armée dans la sous-région. Ça, je vous dis, en termes de formation, nous sommes bien placés, même avant le Cameroun. Je vous assure que nos officiers aujourd'hui, qui ont commencé depuis la petite école, après, bon, on est venu après Saint-Louis au Sénégal, mais même Bengerville a copié sur la République centrafricaine. Et qu'aujourd'hui, si on parle par exemple de quantité, c'est-à-dire de quantité, c'est une erreur grave. Quand on va à la guerre, on ne va pas avec des moyens espérés, mais avec les moyens de bord. Nous avons les moyens, nous avons les autorités, effectivement, Lucas, il manque beaucoup de coordination. Vous voyez comment le député de Ngaoundaï parle. Mais nous devons mettre en place un conseil de sécurité permanent. Les autorités, les représentants, les élus du peuple, pour pouvoir étudier au fur et à mesure. La situation pour moi est grave. Vous savez, on est aujourd'hui en train de dire, mais une armée efficace est une armée de qualité. Une armée de qualité est une armée bien renseignée. Une armée doit briller par sa capacité à surprendre son adversaire. On ne peut pas aller à la guerre et commencer par annoncer. La guerre, c'est quoi ? Tuer ou être tué ? Je pars te tuer à Bokaranga, je t'annonce que j'arrive tel jour à telle heure.
Je suis désolé.
Je suis désolé.
Et en tout cas, vraiment, honorable, à écouter le ministre, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé que l'autorité de l'État, qui doit être quelque chose d'imposé, on doit imposer cette autorité-là.
Oui.
Et on dit qu'il y a des incompréhensions. On doit se mettre d'accord avec qui ? Avant d'envoyer ces gens. D'accord. Avant d'envoyer les... Il faut s'entendre avec les gens.
Je finis. Parce que, franchement, cette question doit aussi régler de plusieurs manières. Est-ce que depuis, nous avons entrepris, nous savons, nous sommes d'accord sur les diagnostics, parce qu'il y a des opposants aussi au président tchadien qui sont là. Leur objectif, c'est d'aller attaquer le Tchad. Mais est-ce que diplomatiquement, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant que l'État mette en place des moyens de coopération d'ordre bilatéral pour essayer de désigner l'ennemi commun et de mettre en place une force commune pour gérer cette situation ? C'est un des points. Maintenant, question de DDR, je connais bien cette histoire puisque j'avais été l'un de ceux qui avaient contribué à la mise en place du DDR. Vous savez, Sidiki, que vous voyez, on nous a parlé des armes comme mes frères ont démontré. Mais à la fin, vous allez voir qu'ils vont sortir des armes qu'on appelle les bandagikwa là pour déposer. Et les armes sophistiquées dont vous voyez, dont vous parlez, disparaîtra normalement. Donc, question de DDR. Voilà le grand piège du siècle. Le DDR, depuis 27 ans au Tchad, c'est pas encore fini. Il n'y a jamais eu de DDR en Angola. Mais et pourtant, la paix est revenue. Et si vous parlez de DDR aujourd'hui, l'approche effectivement du DDR ne répond pas. Ne répond pas. Et qu'il y a moyen aussi de proposer des choses. Parce qu'on est là aussi pour proposer. L'objectif, c'est que nous voulons aider à ce que les choses avancent dans l'intérêt du peuple centrafricain. C'est quand même important. Vous avez plus de 8000 enfants soldats. Et que ces enfants-là que vous voyez, moi j'ai eu dans mon travail à l'époque, c'est moi qui travaillais sur les enfants soldats, j'essaie de comprendre la mentalité. Quand vous prenez un enfant de 8 ans qui dit que moi j'ai déjà tué 14 personnes, mais tu ne peux pas l'amener, le mettre à l'école, par exemple avec ton enfant de 8 ans. Celui-là, lui, il tue. Mais l'autre joue avec lui, il va faire recours à des moyens graves. Donc il nous faut des centres de formation spécialisés. Quand tu demandes ces enfants, ils veulent tous aller à l'école. Mais il faudrait voir dans quelles conditions organiser pour la réouverture de la petite école. Et encore, un pays de 5 millions d'habitants ou moins, il y a 20 millions d'armes en circulation. Il y a 20 millions d'armes en circulation. Depuis, j'entends la MINUSCA, j'entends le gouvernement, j'entends tout le monde, mais on ne parle pas encore d'une caserne ou de l'armurerie. Si on prend les armes, on va les mettre où ? Il faut déjà commencer par penser à cela. Et si, par exemple, vous mettez un enfant à l'école, le délai de l'inertie, c'est à 20 ans. Après que tu sais que l'enfant est devenu telle chose, il a eu son bac, il va aller à tel. Mais on ne peut pas régler une affaire de DDR en espace d'un mandat. C'est impossible. Le DDR doit commencer, doit être institutionnalisé. Et il y a des gens, des centrafricains qui devraient être engagés comme fonctionnaires, qui prendront leur retraite dans le DDR. C'est une affaire de 40 ans. On ne peut pas avoir une vision réduite
et faire comme si en un an, en deux ans, ça va finir. Non, ça ne finira jamais.
Donc, il faudrait
trouver un moyen d'institutionnaliser et impliquer les acteurs. Si je dis des acteurs, ce n'est pas ceux qui sont nommés par le gouvernement, mais des acteurs du terrain. Ceux qui peuvent remonter des informations, aider à la compréhension des choses pour trouver une solution.
Oui, justement, peut-être avant Maître Mané Diapou, sur l'intervention du gouvernement tout à l'heure, on a suivi le ministre Ange-Maxime Kazagué et Monsieur Teru Kachabaz. Aujourd'hui, on a l'impression, en écoutant le membre du gouvernement, qu'il y a eu une négociation en amont avec M. Sidi Keki, malheureusement, a réservé une surprise désagréable au FACA. Est-ce que c'est aussi ce même sentiment que vous partagez?
Je pense que ce qui se passe à Bukaranga, si on met ça en parallèle avec ce qui s'est passé à Nzako, Bambari, à Lindaou, vous voyez, c'est toujours le même schéma. Il y a d'abord une provocation, entre guillemets, à cause de la mauvaise préparation de nos autorités qui envoient au casse-pip, comme on dit, nos FACA. Ça provoque une situation de chaos, on abandonne la population et aussitôt, le gouvernement intervient pour faire quoi? Pour mentir. Deux jours après les événements de Bukaranga, le gouvernement intervient par la parole de M. Kazagué pour dire quoi? C'est une incompréhension, on n'en s'est pas compris, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord demander autorisation à Sidiki avant de déployer des FACA sur place. Mais dans quelle planète on vit aujourd'hui? Dans quelle planète on vit où un gouvernement doit demander l'autorisation d'un groupe de mercenaires étrangers, un Boko Haramiste camerounais comme Sidiki, pour pouvoir protéger la population? Déjà, vous avez vu ça.
Sidiki accepte, les soldats arrivent et il les humilie.
À Bambari, vous avez vu la même chose. À Bambari, Ali Daras a dit quoi? A dit, je ne veux pas entendre parler de cette histoire de JMA. Je ne veux pas voir le président Touadéra à Bambari, ni qui que ce soit à Bambari. Qu'est-ce que nous ont dit les gouvernements par la suite? Non, pour des raisons techniques, pas d'électricité, pas d'eau. Donc, on va repousser. Et qu'est-ce qui se passe? Même pas quelques jours de cela, le président Touadéra a fait une déclaration dans le journal Libération. Et à cette question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement que nous n'avons pas pu organiser la JMA à Bambari pour des causes d'insécurité. Donc ça veut dire que le gouvernement avait menti quand il disait que c'est une question technique. Et là encore aujourd'hui, le gouvernement ment quand il parle d'une question d'incompréhension. La vérité c'est quoi? C'est que ce gouvernement n'a aucune vision politique par rapport à la sécurité. La sécurité n'intéresse pas ce gouvernement. Ça, il faut se le dire clairement. Deuxièmement, comme il n'y a pas de vision politique, il y a une impréparation militaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons tous étudié à l'université, nous avons tous eu à lire les biographies des grands hommes qui ont dirigé les grands pays de ce monde-là. Et un grand chef d'état-major, un grand chef suprême des armées doit connaître sur le bout des doigts, je dis bien le bout des doigts, tous ces officiers généraux de l'armée, de la police, de la gendarmerie, etc., pour savoir comment est-ce qu'il doit faire pour envoyer sur le terrain ces éléments. Or là, aujourd'hui, nous avons vu quoi? D'un côté, à Sidiki, dès qu'il apprend l'arrivée des FACA, il sait déjà combien ils vont venir, quand ils vont venir, dans quel véhicule ils vont venir, il sait déjà ça. Qu'est-ce qui se fait? Il se prépare en conséquence avec un bataillon. Deuxièmement, il les chasse. Troisièmement, il décrète couvre-feu à Kui. Donc aujourd'hui, à Kui,
nous l'avons appris, oui. Voilà.
Il décrète le couvre-feu et il continue toujours à imposer ses impôts. Donc il dit que là, on est dans sa zone de juridiction. Et que si l'État centrafricain ose s'hasarder dans cette zone de juridiction, c'est la guerre. Donc vous voyez que d'un côté, il y a un chef d'État-major rebelle Boko Haramiste qui réagit en homme d'État. Et de l'autre côté, un État qui réagit en Boko Haramiste, en mercenaire. On ne comprend plus rien. On nous parle de la Russie, oh les Russes. L'année dernière, c'était non, là c'est fini maintenant. Ça y est, les mercenaires vont fuir. Mais où sont ces Russes dont on parle? Ils sont où ces Russes? Une semaine avant les massacres d'Alindaou, Ali Daras était en compagnie de Valéry Zakharov, le ministre conseiller du chef de l'État en termes de sécurité. Un rebelle, un mercenaire.
Ils étaient où?
Ils étaient à Alindaou. La vidéo aujourd'hui circule sur tous les réseaux sociaux où on voit Ali Daras en train de discuter avec les éléments russes qui sont aujourd'hui auprès du chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra. Général Baye Keïta, qui est le chef suprême des armées de la MINUSCA en RCA. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que régulièrement, le chef de l'État, Touadéra, invite Ali Daras au palais de la Renaissance pour qu'il discute. Donc, vous voyez que d'un côté, ces groupes rebelles, et systématiquement, ce sont des groupes rebelles étrangers. À chaque fois que je suis venu sur cette radio, j'ai déjà expliqué que cette question de DDR n'a de sens. N'a de sens que si nous faisons un DDR avec des groupes armés centrafricains. Il n'y a pas lieu de faire le DDR avec des Boko Haramistes camerounais, les Boko Haramistes nigériens, les Boko Haramistes ougandais, ça n'a aucun sens. Or, ces gens-là, et vous avez vu que après donc, l'intervention, on nous dit quoi? Qu'on va convoquer le comité
consultatif
suivi des DDR. Donc, ça veut dire quoi? On va inviter les éléments de Ali Daras lors de notre TPADM parce qu'ils ont mis en déroute nos FACA. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on marche sur la tête. On marche clairement sur la tête.
La situation paraît plus complexe qu'on l'imagine, maître Fernand Silvio Manetiapou. Au nord, il y a également cette situation récemment dans le centre du pays où IPI a fait l'objet d'une nouvelle frappe de l'UPC, ceci après Aline Daou. UPC serait-il dans quelle logique en ce moment quand on voit que le FPRC qui était la rébellion la plus puissante semble taire ses agissements et que c'est l'UPC qui monte en puissance?
Merci beaucoup. Avant d'attaquer la situation d'IPI, je pense que c'est important de donner mon point de vue par rapport au point de vue du ministre Kazagui, porte-parole du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, Sidiki a défié l'État. Et aujourd'hui, Sidiki se voit comme un gouverneur ou un préfet. Avant de venir, il faut me contacter, il faut me tenir informé. C'est ça. Parce qu'ils ont pris leur zone de juridiction, ils se sont imposés. Je vous dis, il n'y a pas l'autorité de l'État là-bas. Sidiki s'est imposé pour dire, je ne veux pas. Et si vous amenez les FACA, vous aurez déclaré la guerre avec moi. On est dans quel État? C'est là où nous disons au président Touadéra, nous, société civile, nous ne sommes pas des opposants. Nous donnons nos points de vue pour que la situation du peuple, de la population s'améliore. Mais ça nous étonne. On voit que depuis presque 3 ans et demi ou 4 ans de mandat, ça commence toujours à être pire. C'est grave actuellement. Et aujourd'hui, les rebelles défient l'État. Mais ça nous pose des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas la mise en place d'une stratégie d'arrestation de ces leaders? Est-ce que le gouvernement n'a pas pensé ça avec la MINUSCA? Ils pensent seulement le DDR, ils pensent seulement leur donner l'argent, à leur aider, ils pensent seulement inviter leurs fameux représentants ici, disent ce sont mes représentants qui ne disent rien, qui ne se prononcent pas, qui sont là, qui se disent on est des représentants des rebelles. Mais c'est du, je dis ça, on appelle ça toujours de prime à l'impunité. C'est grave ce genre de situation. La situation d'IPI. Mais vous imaginez, aujourd'hui, les peuples se croient tout puissants. C'est les grands puissants mercenaires. Et c'est ça, ce système. Observons bien. Ils sont en train de s'imposer pour dire, nous, les peuples, nous sommes bien armés. Nous avons de moyens. Nous allons défier l'État. Et aujourd'hui, l'État même discute avec beaucoup de peuples étrangers. À la présidente, vous avez les représentants de ces groupes rebelles. Dans le gouvernement, vous avez les représentants des groupes rebelles. Mais ce sont des gens qu'on ne les écoute pas. J'étais à la place du président Touadéra, je les aurais déjà mis à la porte depuis. Parce qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas blaguer avec la vie de la République. Souvenez-vous du temps de Bozézé. Mais les éléments rebelles étaient là, non? Ils les ont mis au gouvernement. Après, toutes les stratégies du gouvernement les expliquent là-bas. Mais il faudrait que les gens soient prudents. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument. Aujourd'hui, je pense que c'est du copier-coller. C'est comme si rien n'a changé dans notre pays. C'est comme si ce n'est pas une politique de rupture. C'est comme si c'est la même chose. Donc là, vraiment, c'est décevant. Le cas du IPI, il y a la MINUSCA. Les gens sont au courant des attaques. Et toujours les églises catholiques. Détruire les églises catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les ONG, ils ont déjà tout volé des ONG. Ils pourraient aller voler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés piller, voler. Voler à IPI. Tuer 4 personnes, leurs intentions c'était d'aller voler. Tu vois? Les gens se sont dit, on n'a rien, ils vont, ils volent, et ils détruisent la ville, et on les laisse. Mais à quoi sert ces bases de MINUSCA là-bas? Réellement, à IPI, on devait déployer des FACA au niveau de IPI. Il y a plusieurs FACA qui ont été formés. Il y a 600 qui sont sortis hier ou avant-hier. 600. Il y a d'autres, mais on a déjà 1000 ou 2000 FACA déployés en province. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons des commandos FACA qui sont là. Pourquoi ne pas les utiliser? On va nous donner des stratégies de moins. Nous avons certains généraux de l'époque où on entendait parler de les Dol Royal. Mais qu'est-ce que les gens font là ici au bureau, au ministère? Il faut les envoyer sur le terrain, ce sont des fantassins. Il faut les envoyer sur le terrain. C'est grand que nous reconnaissons leurs valeurs. Mais il faut les sélectionner, les envoyer sur le terrain.
Il faut envoyer les gens sur le terrain avec les moyens.
Ils vont faire des stratégies. L'armée, ce sont des gens bien formés. Ils ont été formés parmi les marines américains. Ce sont des rangers. Ce ne sont pas n'importe qui. Sans armes, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas d'armes. Il y a d'armes. Même dans la ville de Bogui, il y a des armes. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais dire, il y a des armes que vous avez trouvées dans les véhicules des députés, non? Au palais de l'Assemblée, on a trouvé beaucoup d'armes, non? Il y a un député qui est là. Mais les gens, beaucoup de ces armes que vous avez données gratuitement aux députés, là, prenez ces armes, donnez à nos FACA. Mais pourquoi les protéger ici s'ils ne sont pas.
Qui t'a dit qu'on a donné des armes gratuitement?
Mais, on a, mais oui, voilà, la liste a circulé.
Ça ce sont des comme dans toute société, il y a des gens qui. Voilà,
la liste a circulé. Qu'est-ce que vous alors, faites avec? Au lieu de prendre les armes, d'aller utiliser dans l'hémicycle, je veux prenez ces armes, donnez à nos FACA.
En tout cas, je tiens à préciser une chose.
Oui, honorable.
Nous avons dans ce pays-là. Un cas moral à résoudre. Nous devons résoudre un cas moral. Et je crois que les autorités de ce pays doivent en premier lieu résoudre ce cas moral-là.
Oui, c'est lequel?
Doit-on continuer à chercher à être des bons élèves des Nations Unies? Croiser les bras. Vous devez faire ça? Oui. Vous ne devez pas importer des armes? Oui. On croise les bras et on laisse mourir le peuple. Est-ce que c'est ça? Ou bien nous devons moralement dire, si mon peuple meurt, je défie même les lois internationales, je mets tout en œuvre pour sauver mon peuple. Nous devons résoudre ce cas-là. Absolument. Et la Constitution, je crois que la Constitution est claire. En cas d'agression par des mercenaires, les autorités habilitées par la Constitution ont le droit et le devoir de recourir à tous les moyens. Tous les moyens. Mm-hmm. Et je crois que tous les moyens là, y compris même s'opposer à la décision des Nations Unies pour chercher des moyens qu'il faut pour défendre notre peuple. Et c'est ça qui manque aux autorités de ce pays-là. On cherche à être toujours des bons élèves et le peuple est en train de mourir. Mais on fait quoi? On fait quoi? Quel est notre rôle? Et je crois que c'est ça. Et quand nous prenons le cas d'IPI, nous sommes en train de parler de l'autorité de l'État, nous sommes en train de parler de la souveraineté de l'État. Mais quand nous parlons de ces souverainetés-là, c'est vrai, c'est de déployer les FACA, ça c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres dimensions qu'il faut essayer de prendre en compte. Ce qui est arrivé à Alindao, le sous-chef secrétaire de la MINUSCA était informé et a promis, parce que le premier ministre nous l'a dit sur les ondes, a promis qu'il va prendre des dispositions. Oui, ne l'a pas fait. Les gens ont été massacrés. Il y a la MINUSCA à IPI. Ils sont là. Les gens sont venus massacrer. Mais pourquoi? Notre autorité, c'est à quel niveau? Ces contingents-là, ces personnes-là doivent être déclarées des personnes non grata et quitter immédiatement le sol centrafricain. Parce que ce sont ceux-là les complices de la mort des centrafricains. S'ils partent, je crois que nous pouvons trouver d'autres issues pour trouver des solutions
et à notre problème. Pour qu'ils partent, peut-être qu'il faut suivre les démarches légales. Et jusque-là, on ne sent pas encore des actions d'envergure au niveau du Parlement centrafricain.
Mais je crois que ce n'est pas seulement le Parlement centrafricain. Dans cette constitution que j'ai citée tout à l'heure, dans ces circonstances, la constitution continue pour dire, dans ces circonstances, tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit et le devoir de s'organiser d'une manière pacifique pour faire obstacle et échec à l'autorité illégitime. C'est ça. Même tous les citoyens, on doit s'organiser par des marches, par des sittings pour dire non à cet embargo injuste-là, à cette manière-là passive de la MINUSCA d'agir pour protéger la population.
La société civile centrafricaine est-elle prête à se lancer pour sauver le peuple?
J'aimerais toucher l'aspect que l'honorable a cité, la Constitution.
Oui, mais
les termes sont clairs. Si dans le cas contraire, on viole la Constitution, parce que le chef d'État prêtait serment sur la Constitution. S'il n'arrive pas à respecter cette disposition, n'est-ce pas une haute trahison? Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à protéger le peuple. Aujourd'hui, les gens disent que ce sont des problèmes des moyens. Il faudrait qu'on voit bien la réalité. Ça peut toucher la situation qui arrive jusqu'au niveau de
notre territoire centrafricain est agressé.
Notre territoire, on peut même démarrer un état d'urgence. Actuellement, la situation de notre pays nous interpelle. Rien n'est pas seulement, on se concentre sur des petites choses qui n'ont pas d'importance. On se concentre pour créer des petites divisions. Le rôle de l'État n'est pas là. Le rôle de l'exécutif n'est pas ça. Mais aujourd'hui, c'est ça que les gens se développent. Chercher des pouces sur la tête des gens. Mais la priorité, c'est la situation de la défense nationale. Moi, je me suis dit, il faudrait que l'État se ressaisisse. Le chef d'État se ressaisisse. Le Premier ministre aussi. Il faudrait que les gens se ressaisissent pour voir la situation de ce peuple. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se préparer pour les élections de 2021. Absolument. Quelle élection encore pour 2021? Est-ce que le peuple va être prêt pour aller élire les gens? Est-ce que le peuple va être prêt pour aller dire que je veux encore aller à cette élection? Ça nous pose un problème. Nous, lorsque nous avons rencontré le chef de l'État, la société civile, je m'en souviens, il y a une personne parmi nous qui a posé la question au chef de l'État, à quand le départ de la MINUSCA? À quand le départ de la MINUSCA? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, mais ils sont là avec toutes les armes, on continue à tuer le peuple, à violer le peuple, à égorger le peuple, à faire du mal à ce peuple. Mais il faudrait que le chef d'État arrête quand même. Il se dit, j'en ai marre. Si le chef d'État ne s'impose pas, c'est fini. C'est là où nous avons dit, à quand il y aura la terminaison pour dire que je vais mettre fin à cette main tendue? Toujours il tend la main. Il faudrait qu'un jour il dise, c'est fini.
Et l'honorable a été clair là-dessus. Notre objectif, c'est d'être de bons élèves de la communauté internationale.
Mais oui, lorsque les Russes ont pris tous ces rebelles pour les amener au Soudan, je dis, pour moi, c'était une erreur grave. La meilleure chose, ils les amènent pas au Soudan, directement à la Cour pénale internationale, comme on a fait à Rambo. On les destitue. C'est-à-dire ça, on aurait déjà trouvé une meilleure solution.
Merci, Maître Mandé Chapo.
La Cour pénale spéciale aussi va être très opérationnelle parce que ces gens, on les a pris. Oui, mais toujours la main tendue et puis des petits problèmes qui n'ont pas de sens, des petits problèmes ici à l'interne, des divisions inutiles qui n'est pas la priorité du peuple.
Merci, Maître Mandé Chapo. Oui, Monsieur Chabaz.
Je voudrais réagir par rapport à la question qu'a posée l'honorable Dila. Je pense que c'est une question d'une importance capitale. Mm-hmm. La question de l'embargo aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges qui sont utilisés par les hommes politiques pour essayer de distraire la population. La question de l'embargo, il faut quand même dire la vérité. Qu'est-ce que c'est l'embargo? L'embargo qui est posé aujourd'hui sur les FACA est un embargo qui n'est pas absolu, qui n'est pas total. Que ce soit que vous lisiez les résolutions 21, 27, 21, 96, 22, 62, 23, 33, 39, etc., vous vous rendez compte que dans ces résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, il existe 6 à 8 dérogations, possibilités de dérogations pour que le gouvernement
puissent se procurer armes, équipements létales comme non létales. Ouais. Premièrement, cette disposition existait pour d'autres pays, comme ça a été le cas par exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été soumise au même embargo que la RCA avec les mêmes dérogations. La différence c'est quoi ? C'est quand le président Ouattara a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répondu aux critères qui permettaient justement à ce que ses troupes puissent s'équiper. Premièrement, il y a une question qui est fondamentale. Nous voulons lever l'embargo, mais en lisant les textes, ces textes de résolution nous interdisent l'utilisation des mercenaires. Ce qui veut dire quoi ? Que tant que le gouvernement centrafricain fera recours à des mercenaires, l'embargo ne sera pas levé, premièrement. Deuxièmement, le 5 décembre 2013, dans la résolution 21-27, a été mis en place ce qu'on appelle un comité de sanctions pour la RCA. À quoi consiste ce comité ? Ce comité nous demande quoi ? Quand nous voulons avoir des dérogations pour équiper nos FACA, parce que cette possibilité existe, le gouvernement doit mettre en place un dossier, le défendre. À ce jour, le gouvernement centrafricain est incapable, je dis bien incapable, de mettre en place un dossier pour pouvoir équiper les FACA. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, cet embargo, quand il a été mis en place, c'est pour obliger les autorités centrafricaines à créer les conditions politiques de stabilisation parce que la crise est d'abord politique. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il faudrait pouvoir associer non seulement les groupes armés, non seulement la société civile, non seulement les partis politiques, y compris d'opposition. Ces conditions ne sont pas réunies, l'embargo ne sera pas levé. Donc il ne faudrait pas qu'on monte aux populations centrafricaines en disant que les blancs, la communauté ne pas. Non, si nous n'arrivons pas à avoir l'embargo, premièrement, parce que nous utilisons des mercenaires, parce que politiquement, on veut simplement faire du tribalisme, etc. Parce que troisièmement, le gouvernement est incapable de pouvoir présenter des dossiers clairs, cohérents, solides sur la question. Des pays l'ont fait comme la Côte d'Ivoire. En 2016, ils nous ont rappelé que l'embargo a été levé en Côte d'Ivoire. Là, un pays comme la Libye, contrairement à la RCA, sous embargo total. Dernièrement, le ministre des Affaires étrangères libyen, Omer Tahir Siala, a dit quoi ? Il dit, nous ne demandons pas la levée de toutes les sanctions, mais nous demandons seulement que des dérogations puissent être données au gouvernement libyen pour que nous puissions protéger la population. Donc vous voyez que la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'autres pays rêvent de l'avoir pour pouvoir bénéficier de ces dérogations. Ça, il faut le dire, ça relève de la responsabilité du chef du gouvernement et ça relève de la responsabilité du chef de l'État. Parce qu'ils ont leur part dans cette question de l'embargo. Merci. C'est pas seulement l'étranger.
Merci à vous, M. Teruka Chabaz. Oui, M. Arrêtez, Prieur-Rubos, nous allons donc terminer cette émission. C'est une réalité, on ne peut plus l'ignorer. Aujourd'hui, nous assistons à ce vaste mouvement, cette montée en puissance des groupes armés d'appartenance. Peul. On a parlé de l'EPC dans le centre, aujourd'hui 3R, Siriri dans l'ouest et un peu le nord aussi. C'est vrai, vous avez parlé aujourd'hui en termes de solutions qu'il faut activer l'offensive diplomatique, mais est-ce que vous avez le sentiment que nous en avons les capacités ?
Déjà, cette crise centrafricaine a contribué naturellement à ce que j'appelle l'effondrement de la valeur morale. Morale en politique, morale en tout. Et cette crise qui a ébranlé nos systèmes de relations, nos mœurs, ont permis de rendre très floues les frontières entre les groupes d'opposition classiques et les militaro-politiques. À un moment donné, vous avez vu des gens comme les personnalités du monde du droit, comme le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, M. Tiangaï, avait fini par avoir les mêmes revendications avec les groupes armés. Cela peut être interprété à tort ou à travers ou par approximation, mais cela nous a vraiment ramenés en arrière à un moment donné. Ceci étant, l'histoire effectivement de l'embargo, je dirais à mon jeune frère que ce n'est pas parce que le gouvernement a amené les mercenaires. Il faut voir les choses. Le chef d'État a été élu pour un mandat de 60 mois, c'est-à-dire 1200 jours. Et que si aujourd'hui, vous voyez bien, vous prenez les jours congés et week-ends, il reste au président Touadéra moins d'un an d'exercice de pouvoir. C'est-à-dire, ne parlez pas des élections en 2021. Ça, c'est un piège. Les élections, c'est en 2020. Et l'embargo nous a été donné pour 2020. L'histoire de mettre 31 décembre 2019, ce n'est pas différent de 1er janvier 2020. Parce que juste quelques heures après, c'est le 1er janvier 2020. Donc c'est depuis le début qu'on a été piégé parce que la diplomatie n'a pas eu la lecture de voir les choses. Et ce qui me choque un peu, c'est quoi ? Quand vous voyez bien le débat sur l'embargo, comment le débat a eu lieu ? Même le représentant de la République centrafricaine n'a pas pris la parole. C'était celui de la Côte d'Ivoire. Et que ce qui m'a encore frappé, c'est que le représentant de Pays-Bas au Conseil de sécurité a dit des choses qui sont aujourd'hui d'actualité. Il a appelé à la prise de responsabilité des hommes politiques centrafricains, des groupes ethniques centrafricains, des religieux centrafricains. Aujourd'hui, la leçon n'a pas été tirée. C'est-à-dire, nous-mêmes, que ce soit nous, centrafricains, citoyens, on ne fait rien. Et encore, une dernière chose, comprenez-moi qu'il y a trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Les hommes politiques centrafricains sont tellement hypocrites, tu ne peux pas comprendre. Quand il y a eu crise, il y a un ami qui est aujourd'hui ministre. On était en France quand je lui ai dit. Il me dit, mais chez toi à Boussangoua, là, vos histoires avec les Sélika, là, comment ça? Je dis, mais non, mais tu es trop bête. La République a été attaquée. Si aujourd'hui, on traite les choses cas par cas, si une ville ou un village a été attaqué, nous devons mettre dans la tête que toute la République a été attaquée.
Absolument. Elle doit être mobilisée.
Et nous devons nous mobiliser pour dire non. Mais quand vous voyez bien, même pour Ouampendé à l'époque, les ressortissants de Ouampendé se sont levés. Les députés de Ouampendé à l'époque, à cause de Sidiki, se sont levés avec une force incroyable pour saisir les Nations Unies, etc., qui ont ouvert seulement la porte du derrière à Sidiki de sortir et de revenir aujourd'hui. Vous voyez ? Et donc, ça, aujourd'hui, nous devons nous indigner dans l'ensemble. Si vous voyez bien, les leaders politiques voient bien leur coloration ethnique et tu vois la région qui est attaquée derrière. Quand les gens censurent, ça veut dire que leur région a été touchée. Ce qui était passé à Boussangoua, c'était des prolats. Mais entre-temps, les autodéfenses se sont levées pour bien traiter correctement les matricules de ces malfrats. Aujourd'hui, Boussangoua est compté parmi la ville la plus sûre de RCA et la ville la plus sécurisée. Et pourtant, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est ni les FACA. Et donc, raison de plus pour dire qu'il n'y a aucune raison pour que les Nations Unies ou les FACA ne puissent pas remplir correctement leur mission. C'est toute une question de stratégie, question de timing, question de réserve et question autour de trois objectifs, c'est-à-dire assurer la sécurité du territoire, de la population pour garantir la stabilité politique. Aujourd'hui, tout est clair. Que nous ne devons pas demander la levée de l'embargo parce qu'on n'aura pas. On sait qu'il y a des objectifs cachés qui se sont profilés derrière et l'objectif c'est de débrouiller, utiliser les moyens de bord. Donc face à toute agression des gens qui n'ont ni foi ni loi, tout type de moyens de défense doit être considéré comme conventionnel, y compris le bandaguikois, y compris je ne sais quoi. Et donc, merci. Il faudrait se lever comme un seul homme pour travailler, mais arrêter à chaque fois de mettre tout sur le gouvernement. Nous devons tous faire, nous citoyens, nous politiques, nous religions, nous devons tous nous employer à ce que les choses... Nationale. Voilà, la société civile, c'est aussi important.
Merci à vous, monsieur Arsène Brun-Roubois. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka, consacré aujourd'hui au retrait précipité des FACA de Bukaranga sur instruction d'un groupe rebelle. Merci à mes invités ici présents, merci à tous les auditeurs. Herman Ambona à la technique, Polyte Marbois à l'animation. Vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.